Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Virginie Salmen.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les carnets du monde. Une heure pour explorer le monde grâce au micro Europe 1 que nos envoyés spéciaux, nos correspondants baladent un peu partout sur la planète. On part en vadrouille dans le Grand Ouest, chez un voisin européen ou sur une île du bout du monde, au programme du son qui vient de loin. Première étape chez les cow-boys du Texas, c'est en tout cas l'image qu'on peut en avoir ici en Europe, de cet État américain qui est en train de se transformer politiquement à vitesse grand V, à tel point que ce territoire rouge, c'est-à-dire républicain, est en train de virer démocrate. Et si le candidat Beto O'Rourke réussissait le coup de force de l'emporter au Texas, les midterms à J-2 sur fond de musique country dans un instant. Puis nous irons à Berlin pour un témoignage rare, très rare, celui d'une femme de 94 ans, Hani, l'une des seules jeunes filles juives à avoir réussi à survivre à Berlin sous le joug nazi jusqu'en 1946. Elle raconte la nuit de cristal, des pillages et des destructions de dizaines de milliers de magasins et de maison de famille juive. C'était il y a pile 80 ans. Elle était dans le tramway et elle n'en a pas cru ses yeux. Un livre dans le monde. Nicolas Caro nous fait découvrir l'adaptation en bande dessinée du roman culte de l'écrivaine américaine Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Une éditorialiste star du Financial Times qui se reconvertit en prof. C'est à Londres. Vous avez eu une carrière à succès. Maintenant, faites quelque chose de plus important. Enseigner, dit-elle à ses congénères cadres supérieurs, qu'elle essaie de convaincre d'aider la nation en pénurie de profs. Ça donne des idées à d'autres pays, dont la France. Nous finirons ce voyage radiophonique par le Brésil. À peine une semaine après l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, il souffle un vent frais, inquiétant sur les préparatifs du carnaval de Rio. Reportage sur fond de samba, évidemment. Et puis nous ferons un crochet en Autistan avec notre chroniqueur Joseph Chauvanet qui nous emmène dans des bâtiments que vous ne visitez probablement jamais en voyage, mais qui en disent beaucoup sur nos sociétés. Les carnets du monde sont ouverts, direction le Texas. Et on ouvre ces carnets à J-2 d'élections cruciales aux États-Unis. Le scrutin de mi-mandat, les midterms. Ce qui est en jeu, c'est la totalité des 435 sièges de la Chambre des représentants, plus un tiers des sièges du Sénat. Il y a aussi plusieurs élections locales qui ont lieu en même temps. Les Américains peuvent au passage élire leur gouverneur ou leur shérif. Tout dépend de l'État. Nous avons choisi dans ces carnets de faire un zoom sur le deuxième plus grand État américain, le Texas, plus étendu que la France, peuplé d'un peu moins de 30 millions de personnes. Et c'est au Texas que se déroule probablement la campagne la plus médiatisée des midterms. Et avec notre correspondant Xavier Yvon, on va se poser cette question. Le Texas peut-il basculer à gauche ? Bonjour Xavier.
Bonjour Virginie, bonjour à tous.
Bon, c'est un peu provoque hein, cette question d'un Texas démocrate. Ouais. Alors vu de France, on a l'image du Far West et le sentiment que c'est l'un des États les plus traditionnels, les plus conservateurs d'Amérique.
Oui, et c'est vrai, le Texas est fidèle à sa caricature de terre de cow-boys accrochés à leurs bibles et à leurs armes. Les grands chapeaux, les bottes, les ceinturons, les Texans les portent fièrement au quotidien. Quand vous roulez à travers les immenses plaines, si vous allumez votre autoradio, vous tomberez le plus souvent sur ça. Vous avez reconnu de la musique country ou alors sinon ce sont des radios chrétiennes. Voilà, sinon ce sont des radios chrétiennes qui diffusent en boucle des sermons, c'est au choix. Et quand vous interrogez les Texans sur leurs opinions politiques, bah très souvent vous entendez ceci.
J'en ai marre de travailler et de payer des impôts qui profitent à ceux qui restent assis sur leur cul à ne rien faire. Et c'est ce qui se passe dans ce pays, c'est pourquoi je suis républicaine et j'aime le président Trump.
Bon, mais alors Xavier, quand on entend ça, qu'est-ce qui vous fait penser que le Texas peut changer de bord politiquement ?
Eh bien, la réponse tient en quatre lettres, B-E-T-O, comme Beto O'Rourke. Il est le candidat des démocrates au Sénat face au sortant Ted Cruz, l'ultra-conservateur. Alors, normalement, ça devrait être joué d'avance au Texas, mais voilà, cette fois, le démocrate menace le républicain. Beto, comme on le surnomme ici, talonne son concurrent, et rien que ça au Texas, bah, c'est déjà un exploit. Jeune et charismatique, père de famille au faux air de Bobby Kennedy, il mène une campagne de terrain énergique au volant de sa voiture familiale, avec plusieurs meetings par jour, et il n'est absolument pas battu d'avance, comme il l'a confié au micro Europe
1. Si vous considérez qu'ici c'est conservateur ou républicain, vous ne gagnerez jamais. Mais si vous vous ouvrez aux gens, où qu'ils soient, alors vous avez une chance. C'est pour ça que nous allons dans chaque comté voir chaque personne.
Oui, quel optimisme, effectivement.
Oui, quelle énergie. Rendez-vous compte, Beto O'Rourke s'est rendu dans chacun des 254 comtés du Texas. Même les plus hostiles, les plus rouges, c'est la couleur des républicains, ils brillent tellement rouges qu'on les voit de l'espace, blague souvent Beto O'Rourke. Je suis par exemple allé le voir à Mineral Wells, une petite ville au milieu des plaines à une heure de route de Dallas. Et en arrivant, surprise, impossible de se garer. Il y a des voitures partout, même sur le bord de la route. Il faut finir à pied pour rejoindre une salle pleine à craquer. Écoutez l'ambiance à l'arrivée du candidat.
Ladies and gentlemen, Mr. Beto O'Rourke.
On dirait une rockstar qui monte sur scène et il en a l'énergie. Il parle en s'agitant en permanence, déroule ses thèmes favoris, immigration, éducation, système de santé. Amy, une jeune mère de famille, boit ses paroles et contemple la foule.
Je suis née et j'ai grandi ici. Et je suis un drôle d'oiseau dans une ville très conservatrice. Mais voir tous ces gens ici aujourd'hui qui ont les mêmes idées, je me sens moins seule. J'étais ravie de voir cette foule ici. J'ai été un peu surprise quand vous avez à ouvrir les portes pour que les gens dehors puissent suivre. Dans une ville si républicaine, c'est magnifique à voir.
Et dans ce public immense, il y a aussi Mike, un fier Texan avec sa moustache de cow-boy, qui revendique le droit d'avoir ses fusils de chasse, mais qui ne se reconnaît plus dans les républicains et qui préfère maintenant Beto O'Rourke.
Je pense que Beto représente les valeurs du Texas, les valeurs familiales. On ne sépare pas les enfants de leurs parents migrants à la frontière. Ça, c'est le contraire des valeurs familiales et je suis prêt à débattre avec n'importe qui dit que ce sont les républicains qui défendent les valeurs familiales.
Il y a un côté aussi très humaniste, hein, Xavier.
Oui, et pour Mike, l'élection de Donald Trump a été un électrochoc. Il a rejoint carrément le Parti démocrate et il n'est pas le seul, dit-il, à vouloir faire basculer son État.
Nous n'y arriverons peut-être pas cette année, même si j'espère que ça se fera lors de ces élections. Si ce n'est pas le cas, nous gagnons en influence partout, à chaque jour qui passe. Et je le sens dans mon propre quartier à Weatherford, l'une des plus grandes villes républicaines du coin. Il y a plus de pancartes pour Beto que pour Ted Cruz. C'est un mouvement. Je n'ai jamais vu autant d'enthousiasme dans toute ma vie au Texas et je pense que ça va quelque part. Et si ce n'est pas maintenant, c'est en train de grossir.
Alors, on l'entend, hein, cet enthousiasme, mais est-ce qu'il a vraiment des chances d'être élu, ce Beto O'Rourke ?
Alors, si on en croit les derniers sondages, ça va être dur, mais l'essentiel n'est pas vraiment là. En fait, s'il ne perd que de quelques points, il aura montré que le Texas peut basculer. Un Texas démocrate, c'est un peu un serpent de mer, c'est le grand espoir de la gauche d'ici quelques années, avec le changement démographique. Selon les projections, les Blancs ne seront plus majoritaires d'ici 2025, or c'est le cœur de l'électorat républicain. Les Latinos, eux, sont de plus en plus nombreux et pour l'instant, ils votent plutôt démocrate. Mais ce que la campagne de ce Beto O'Rourke révèle aussi en creux, ce sont les ravages du trumpisme.
Alors justement, à quoi est-ce qu'on le voit ?
Eh bien, à tous ces conservateurs, disons modérés, comme Mike que vous avez entendu, qui sont dégoûtés par Donald Trump et qui sont sensibles au discours rassembleur de Beto O'Rourke, qui répète à chaque meeting cette formule quasiment magique.
Si vous êtes républicain et que vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes démocrate et que vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Les indépendants aussi, vous êtes tous bienvenus ici. Il faut être tous ensemble pour redonner à ce pays cette idée que c'est nous, le peuple, qui sommes le gouvernement. Le gouvernement, c'est nous.
Ce ton optimiste, cette volonté d'unité dans un moment d'intense division, ça séduit Anne, par exemple, elle est agent immobilier à Dallas. Je l'ai rencontrée à la sortie d'un autre meeting de Beto O'Rourke. Pour la première fois de sa vie, elle porte un badge politique et pour les démocrates, elle qui a toujours été républicaine.
Je n'ai jamais été politiquement active. Je n'étais jamais allée à un meeting électoral jusqu'à cette année. Je n'avais jamais donné de l'argent pour une campagne jusqu'à cette année. Mais cette année, pour être honnête, tout part de notre président. Il fait du mal à notre pays. Il y a comme une cicatrice qui traverse notre pays et j'espère qu'on peut en guérir.
I'm hoping we can heal from it. Et Anne, c'est l'exemple parfait de ces fameuses femmes éduquées des banlieues aisées qui sont la catégorie d'électeurs très surveillée par les sondeurs parce qu'elles pourraient faire la différence.
Et est-ce qu'il y en a beaucoup comme elles au Texas, Xavier ?
Oh oui, et de plus en plus, et de plus en plus mobilisée dans un quartier chic de Dallas. J'ai assisté par exemple à une scène qui était inimaginable il y a quelques années.
All right, everyone, hello.
Nous voici assis dans le gigantesque living room d'une maison très cossue. Ce que vous entendez là, ce sont une trentaine de femmes en train de se former à faire campagne par téléphone pour les candidats démocrates à la Chambre, au Sénat, au poste de gouverneur. Et c'est du jamais vu dans ce secteur très conservateur. Il y a là des républicaines converties, des indépendants, tout simplement des femmes inactives politiquement qui se sont réveillées avec l'élection de Donald Trump. Et c'est pas toujours facile au Texas de s'afficher comme démocrate, explique Liz Coy, qui est l'une des leaders.
Beaucoup de femmes ont des maris qui sont dans l'autre camp. C'est très dur pour elles. Elles ne se cachent pas, mais parfois elles n'osent pas mettre des panneaux électoraux devant leur maison. Certaines les mettent quand leur mari est absent. On en rigole, mais je pense que la plupart des maris se disent « ça va, de toute façon on va gagner » parce qu'on est au Texas profondément républicain et ils ne croient pas à une vague démocrate qui changerait le pays.
Mais ces femmes, elles, elles y croient, comme Joe Cochran, son association dans l'Est de Dallas, est passée en un an, écoutez bien, de 30 à 3000 personnes. Ces militants ont un but, faire voter les Texans, qui vont aux urnes encore moins que le reste du pays. Aux dernières élections de mi-mandat, par exemple, à peine 1 sur 4 s'était déplacé.
Nous ne sommes pas vraiment un État républicain. En fait, nous sommes un État qui ne vote pas. Et il y a beaucoup de gens qui penchent à gauche, qui se disent que leur vote ne compte pas et qui ne se déplacent pas. C'est pour ça que nous avons lancé une campagne quartier par quartier. Nous avons des militants de terrain qui vont parler avec leurs voisins et leurs amis. Et ils disent « Oh, je ne savais pas qu'il y avait un autre démocrate dans le quartier. » Et on leur dit « Oui, et vous savez qu'il y en a 6 de plus dans la rue. » C'est comme si on les sortait du placard, les démocrates du Texas. Et maintenant, quand vous roulez en voiture dans le coin, plus personne n'a peur de mettre des panneaux pour Beto. C'est nouveau.
Et ça paye. Le Texas, vous savez, c'est l'un de ces États où on peut voter en avance. Et les chiffres de participation battent déjà des records. Alors, est-ce que ce sera suffisant mardi? Pas sûr. Peut-être pour la prochaine présidentielle en 2020. Ces Texanes et ces Texans en sont persuadés. La question n'est pas de savoir si, mais quand leur État deviendra un de ces fameux swing states, État bascule, qui décide du sort politique du pays.
Les démocrates qui sortent du placard au Texas, c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, et à très bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Europe 1.
Deuxième destination des carnets, on file chez nos voisins allemands pour entendre un témoignage rare, celui de Hani, 94 ans, l'une des seules jeunes filles juives à avoir survécu à Berlin pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Elle raconte en français.
Europe 1, les carnets du monde.
Direction l'Allemagne, Virginie Salmen.
C'est une commémoration qui va passer un peu inaperçue la semaine prochaine au milieu de toutes les cérémonies qui marquent les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, elle a une résonance toute particulière avec notre époque, comme l'a encore rappelé l'attaque contre la synagogue de Pittsburgh aux États-Unis la semaine dernière. Nous parlons de ce qui s'est passé en 1938, le 9 novembre. Vendredi, ça fera exactement 80 ans, la nuit de cristal en Allemagne et en Autriche. Cette nuit de pillage et de destruction de dizaines de milliers de magasins juifs, mais aussi de synagogues, d'écoles et parfois d'appartements ou de maisons habitées par des familles juives. Une action concertée, commandée par le régime nazi, avec dans ses carnets du monde un témoignage très rare. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Alors c'est vous qui l'avez recueillie, vous avez rencontré Annie, cette dame de 94 ans qui est l'une des rares personnes encore vivantes qui se souvient de cette nuit-là à Berlin.
Oui, les témoins disparaissent, Virginie, ou alors c'était de 6 jeunes enfants à l'époque qui n'ont pas vraiment de souvenirs. Mais la vieille dame que vous allez entendre a la mémoire très claire. Hani Levy était une adolescente le 9 novembre 1938. Elle allait dans un collège juif du centre de Berlin. Ce jour-là, elle ne saisit pas ce qui se passe, évidemment. Sur le moment, elle ne fait que constater les dégâts en passant le lendemain matin dans Berlin en tramway.
Oui, je m'en souviens. À fur et à mesure qu'il a tramway passé, j'ai vu d'abord un magasin détruit, un autre magasin détruit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas possible. Et c'est là, j'ai vu, disons, le résultat, le lendemain matin. J'avais 14 ans. J'étais très naïve, parce que mes parents m'ont mise en garde contre des éventuelles agressions, contre des éventuelles injures. Mais ils m'ont pas raconté ce qui se passait. Peut-être qu'ils ne savaient pas non plus eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Mon père était jusque-là un ardent allemand. Et peut-être que ça les a surpris aussi, que ça pouvait arriver. Mais ça, je ne sais absolument pas. Le lendemain, j'allais à l'école comme d'habitude.
Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'elle réalise seulement ce jour-là, qu'elle découvre la réalité du régime nazi.
En fait, effectivement, pour beaucoup de juifs allemands et autrichiens, ça a été un révélateur parce que il y avait eu auparavant, évidemment, les lois raciales de 35, des interdictions en tout genre, l'interdiction de travailler notamment, mais on pouvait réussir à vivre. Le 9 novembre 38, en fait, pour la première fois, on s'en prend physiquement aux juifs, c'est un pogrom. Et sans saisir la dimension que prendront les persécutions, les rafles qui vont suivre, beaucoup de juifs d'Allemagne et d'Autriche réalisent seulement à ce moment-là qu'il faut partir. Alors, il y a une fuite massive dans les quelques semaines qui suivent la nuit de cristal vers la France, vers l'Angleterre, vers les États-Unis. Puis il y a tous ceux qui n'ont pas les moyens de partir, comme les parents de Annie Lévy, qui s'appelle à ce moment-là Annie Weissenberg.
On avait raté par pauvreté, par négligence peut-être, je ne sais pas, de partir ailleurs. Parce qu'il fallait partir ailleurs, il fallait quand même avoir des moyens. Donc on est resté, il fallait subir. Et après ça allait très vite.
Mais alors comment on survit dans la capitale du Reich quand on est juif comme Annie ?
Alors c'est pour ça que ce témoignage est exceptionnel, parce que Annie fait partie de ces 1700 juifs qui ont vécu jusqu'au tout dernier jour du régime nazi dans Berlin. Alors elle, seulement parce que son père et sa mère sont malades, ils vont très vite mourir et elle est obligée de travailler à peine 14 ans.
J'étais à un moment donné bonne à tout faire chez quelqu'un. En janvier 40, mon père est décédé. Ma mère était restée avec moi toute seule. Je ne peux absolument pas vous dire si j'ai pu acquitter le loyer, je crois pas. À la suite de ça, j'étais contrainte à travailler à l'usine, une fois la nuit, une fois le jour. Ma mère est restée toute seule. Lorsque je repense à ça aujourd'hui, je ne sais même pas comment on s'est nourri.
Alors voilà la vie de cette jeune Annie dans ce Berlin sous le joug des nazis. En fait, si vous prenez la population juive de Berlin en 1933, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, c'est simple et à la fois absolument vertigineux comme chiffre, 99% de ces gens vont disparaître,
99%.
Soit en déportation, voilà, 99%, soit en déportation, soit en exil. Seulement 1% va réussir à se cacher, des mois, des années de clandestinité, sous des faux noms, avec des fausses apparences, comme Annie Lévy, histoire incroyable qui a donné lieu à un film. Écoutez cet extrait, le jour où Annie, la jeune juive de 19 ans, disparaît pour laisser place à Hannelore Winkler, une arienne coiffée à la dernière mode du Reich.
Qu'est-ce qu'on fait de beau avec ces magnifiques cheveux bruns ?
Une décoloration, s'il vous plaît.
Et quel type de blond ? Il faut souffrir pour être belle. On aura besoin de deux autres rendez-vous demain et après-demain. Comment t'appelles-tu ?
Winkler.
Alors le film s'appelle Les Invisibles, il raconte le destin de quatre jeunes juifs de Berlin qui veulent tout simplement vivre. Ils ignorent tout des uns et des autres, hein. Chacun tentant de rester le plus discret possible. Hein. Annie a découvert qu'elle n'était pas la seule à avoir vécu cette incroyable histoire bien plus tard. En revanche, elle a toujours gardé le lien avec ceux qui l'ont aidée pendant ces années de clandestinité. Sa famille de Berlin, comme elle dit, il y a notamment la caissière du cinéma où elle allait se réfugier pour avoir chaud dans la journée et qui l'a faite passer pour sa nièce, qui se débrouillait jusqu'au dernier jour de la guerre pour lui trouver des tickets de coiffeur pour continuer à lui teindre les cheveux en blond malgré les privations. Alors Annie Lévy est parvenue à ce que ces Berlinois obtiennent bien plus tard le statut de juste et qu'on reconnaisse leur courage, leur humanité. Mon histoire montre aussi que tous les Allemands n'étaient pas des meurtriers, dit-elle. Et grâce à ces gens, elle n'a jamais pu vraiment en vouloir à l'Allemagne. Et Berlin est à jamais, dit-elle, sa patrie de cœur.
Alors c'est sa patrie de cœur, mais il n'empêche qu'après la guerre, elle finit quand même, Annie, par émigrer.
Oui, et c'est la France qui va lui offrir une chance. En 1946, un oncle qui avait réussi à échapper à la Shoah parvient à retrouver sa trace et à la faire venir à Paris, qu'elle n'a plus jamais quitté. Et c'est pour ça qu'elle parle aussi bien français, Annie. Ah oui. Là, elle va rencontrer un autre juif allemand, se marier, fonder une famille. Mais leurs enfants, eh bien, ils ont tenu à les élever dans les deux langues, français et allemand, dans les deux cultures, ce qui n'a pas toujours été bien compris à l'époque par les autres juifs de Paris. Ah, elle s'est aussi souvent sentie en décalage aussi avec les survivants de la Shoah, parce que, comme elle le dit elle-même, elle n'a pas vécu l'expérience de la déportation. Elle est restée à Berlin et il fallait faire comme si on n'était pas recherché, on allait au cinéma, dans les cafés, fréquenter les rues commerçantes. Ce destin, il est bien moins tragique que celui des rescapés des camps. Et c'est pour cela qu'il a fallu des années avant qu'on découvre ce pan de l'histoire. Le film Les Invisibles est sorti en Allemagne en 2016 et il a eu beaucoup de retentissement.
Et c'est un film qu'on pourra voir en France, parce que pour l'instant, nous, on ne connaît absolument rien de cette histoire. Ce témoignage, c'est une des premières fois qu'on entend Annie.
Oui, alors il a été acheté par la France le film, mais pour l'instant les diffuseurs n'ont pas jugé utile de le sortir. Alors il y a eu une projection cet été au mémorial de la Shoah, c'était la première fois que les amis français de Annie découvraient son histoire, et cette interview qu'elle nous a donnée pour Europe 1 est la première qu'elle donne à un grand média, c'était vraiment un moment très précieux pour elle. Elle était mardi ici à Berlin parce que le film était présenté à l'ambassade de France devant un public français, et je peux vous dire qu'elle était très émue d'être à la fois dans sa ville de cœur, sa ville natale, et sur le sol diplomatique français.
Alors quand on entend la voix d'Annie, on ne peut pas s'empêcher de penser cette semaine à ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui a fait un parallèle entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30. Est-ce que elle, celle qui a vécu cette période, trouve que cette comparaison est pertinente ?
Alors pour elle, le plus important, en fait, ce n'est pas de faire une comparaison, mais de comprendre pourquoi et comment des gens aujourd'hui peuvent encore croire aux idéologies de haine que sont l'antisémitisme ou le nationalisme.
Je suis quand même très étonnée qu'à l'époque actuelle où les gens sont quand même, ils savent quand même ce qui s'était passé, se laissent encore une fois prendre dans ce piège qui n'est pas fait pour leur bien, parce que c'est fait pour les gens qui le font, pour leur propre envie d'avoir à nouveau un pouvoir sur les gens, qu'on veut changer un régime. Parce que ça va mal, ou parce qu'on n'est pas content. Mais en Allemagne, où tout va peut-être mieux qu'ailleurs, que ça peut de nouveau prendre racine, ça c'est pas possible.
Et c'est pour cela qu'Annie Lévy essaye autant que possible de témoigner. Elle est encore très en forme, cette petite femme minuscule, extrêmement vive, un témoin très précieux, mais qui a déjà 94 ans.
Ah oui, on l'entend quand même, une voix très 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 puissante, un témoignage rare. Merci beaucoup Hélène Kohl de nous l'avoir fait découvrir. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin, à très bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Europe 1.
Dans un instant, notre chroniqueur littéraire Nicolas Caro nous fait découvrir un livre culte, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee, mais cette fois en bande dessinée.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est l'heure de se plonger dans la littérature étrangère avec le chroniqueur littéraire d'Europe 1, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Virginie.
Alors cette semaine, vous êtes venu avec un roman culte adapté en bande dessinée.
Oui, un peu à votre demande d'ailleurs Virginie.
Oui,
je crois que vous aimez beaucoup ce livre. Et moi aussi, ça tombe bien, il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, signé Harper Lee, et l'anglais Fred Fordham maintenant, puisqu'il s'est chargé des dessins. Voilà, on lui doit cette bande dessinée en format livre chez Grasset. On appelle ça un roman graphique, enfin, peu importe. C'est un très bon livre, très fidèle au roman original et encore heureux.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'histoire ?
Oui, d'abord, très important, elle est racontée par Scout, une petite fille. Nous sommes en 1933 à Maycomb, une petite ville en Alabama. C'est l'été, elle traîne un peu avec son grand frère Jem. Les deux enfants rencontrent leur petit voisin. J'adore la rencontre parce que c'est bien l'esprit du roman. Ouais. Ils sont chacun d'un côté de la clôture qui sépare les deux jardins. « Salut, salut, je m'appelle Charles Baker Harris, je sais lire. » Et alors ? Bah, je pensais que vous aimeriez le savoir, si vous avez besoin que je vous lise quelque chose.
On sent bien toute l'ambiance du sud-américain, et donc ces enfants-là, ils font des bêtises. Et
oui, comme tous les enfants, mais rien de méchant, ils s'intéressent particulièrement à Boo Radley, en tout cas à sa maison, personne ne le voit jamais sortir. Il est mystérieux, et donc il intrigue les enfants un peu comme une maison hantée. Les enfants veulent en avoir le cœur net, alors ils vont essayer de s'introduire dans la maison de Boo Radley. Ça, c'est pour la vie normale et banale des enfants en été. Mais Jem et Scout ont une particularité. Leur père, Atticus Finch, est avocat.
Eh oui.
C'est un type bien Atticus, très intègre, très droit. Il va devoir défendre Tom Robinson, un noir, accusé d'avoir violé une blanche. Autant vous dire que dans les années 30, en Alabama, vous pouvez tout de suite remplacer accusé par condamné. Pas facile pour les enfants. Leur père, pourtant très respecté, se fait insulter par certains villageois, les enfants aussi d'ailleurs. Mais Atticus tient bon. Il y a une scène très importante dans le roman. Elle est très bien rendue dans la BD. Ça se passe à la prison de Maycomb. Des villageois sont venus chercher Robinson. Le procès n'a pas encore eu lieu, mais ils veulent régler ça à leur manière, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, voilà. Lyncher, quoi.
Exactement, sauf qu'Atticus est là avec Jem et Scout. Atticus fait barrage et je vous laisse découvrir cette scène qui est très émouvante.
Alors, c'est un roman culte. Qu'est-ce qui a plu dans ce livre ? Qu'est-ce qui a fait son succès ?
Publié en 1960, prix Pulitzer en 61. Effectivement, énorme succès. Adaptation au cinéma avec Gregory Peck dans le rôle d'Atticus Finch. C'est l'un des livres les plus vendus au monde. J'ai demandé à Isabelle Auxerre, la traductrice, ce qui faisait justement le génie de ce livre.
Le génie, je crois, c'est le monde de l'enfance. Parce que son génie dans ce roman, c'est de faire raconter cette histoire par un adulte, mais qui se place au moment où elle était enfant. Et elle fait ça tellement bien qu'on oublie que c'est un adulte qui parle et on a l'impression que c'est un enfant. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de monde vertigineux dans lequel elle nous fait entrer. Et même si, quand on est adolescent, qu'on lit ça, on ne comprend pas le truc narratif qu'elle a utilisé, on ne peut qu'y être sensible malgré tout. Il se passe comme un charme, comme un envoûtement qui vient de là, je crois, de ce décalage.
Alors, aux États-Unis, ce livre, c'est un monument. En France, il est un peu moins connu. Pourquoi ?
Eh bien, peut-être à cause, justement, des traductions précédentes.
D'abord, il y a un problème de traduction. C'est-à-dire que il y a eu deux traductions avant celle que j'ai reprise. Et la première n'est pas une version intégrale. La deuxième était intégrale, mais très francisée. Et du même coup, je pense qu'on perdait une partie du charme de ce roman. Parce que ce roman, c'est non seulement les États-Unis, mais c'est le Deep South. C'est vraiment le Sud profond avec ces relations particulières entre les Noirs et les Blancs et cette société qui se veut aristocratique des Blancs par rapport aux petits Blancs pauvres et aux Noirs. Et donc, franciser tout ça, ça ne pouvait pas passer. Il y avait une espèce de déséquilibre qui se produisait. Et puis d'autre part, je pense que ça c'est un effet de la globalisation, c'est qu'on s'intéresse davantage à ce qui est publié ailleurs maintenant qu'il y a 30-40 ans.
C'est d'ailleurs le sujet central du livre, hein, s'intéresser à l'autre.
Absolument, c'est d'abord une réflexion sur la différence, sur le racisme. Quel est ce mystère qui fait que l'on se méfie de ce qui est différent ? Je ne sais pas si la réponse est dans le livre, mais Harper Lee traite le sujet avec une finesse incroyable, sans doute grâce à ce vrai faux regard d'enfant. C'est aussi un livre sur la non-violence. Le titre « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » vient d'une scène du roman. Les enfants ont reçu de petites carabines à plomb en cadeau. Atticus leur dit qu'ils peuvent sans problème tirer sur des boîtes de conserve pour s'amuser, mais de surtout ne pas tirer sur les oiseaux moqueurs, une espèce d'oiseau qui ne fait que chanter, qui incarne un peu l'innocence.
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, donc adapté en bande dessinée, c'est chez Grasset.
Oui, traduction donc d'Isabelle Auxerre et Isabelle Stoyanov, dessin de Fred Fordham.
Merci beaucoup Nicolas Carin.
Merci Virginie.
Europe 1.
Une minute, direction le Royaume-Uni pour aller voir ce qui motive ces cadres supérieurs britanniques à devenir prof en collège. Ça s'appelle Now Teach. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Virginie Salmen, jusqu'à 14h, on file maintenant chez nos voisins britanniques.
On fait maintenant un saut de puce au-dessus de la Manche pour aller jeter une oreille à cette initiative inspirante au Royaume-Uni. Une éditorialiste du Financial Times a tout plaqué pour devenir prof. Une réponse aux bullshit jobs, les boulots qui n'ont plus de sens, et à la crise du recrutement chez les professeurs. D'ailleurs, en France, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, incite lui aussi les ingénieurs ou les cadres à se reconvertir. À Londres, le mouvement prend de l'ampleur puisqu'il existe désormais une fondation, Now Teach, qui place des ex-banquiers, des avocats, des consultants, des hauts fonctionnaires dans les écoles qui en ont besoin. Et la correspondante d'Europe 1 à Londres est allée voir à quoi ça ressemble. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour Virginie.
Alors Now Teach, c'est l'aventure d'une journaliste, Lucie Calloway, qui s'est lancée dans l'enseignement après 30 ans de carrière.
Oui, et comme elle le raconte avec humour, elle en a eu marre d'être cynique et elle a voulu être utile. Elle a eu le déclic quand sa propre fille est devenue prof. Écoutez cet extrait de sa conférence 5x15 Stories. And then by
Christmas, à Noël, elle m'a raconté qu'elle avait reçu un petit mot d'une de ses élèves, la plus pénible de sa classe, qui disait simplement « Vous êtes incroyable, madame ». Et j'ai pensé « C'est tellement, tellement beau que j'ai été jalouse de ma fille et je me suis dit « Moi aussi, je veux faire quelque chose comme ça ».
Alors, elle a donc lancé cette fondation Now Teach il y a 2 ans avec ce slogan « Vous avez eu une carrière à succès, maintenant faites quelque chose de plus important, enseigner ». Et donc, elle est devenue professeure de maths. Est-ce qu'elle a été suivie ? Est-ce que c'est la seule ou il y a d'autres gens qui l'ont suivie ?
Oui, alors l'intérêt a même dépassé ses attentes. Hein. Elle a reçu 1 millier de demandes la première année. Aujourd'hui, ils sont 120 profs reconvertis dans le programme. Ils ont entre 44 et 67 ans. Parmi eux, j'ai rencontré Peter, qui a gravi les échelons d'une grande banque d'investissement et qui, au lieu de prendre sa retraite, a fait sa première rentrée en septembre dans une classe de 4e d'une école difficile du sud de Londres.
J'aimerais que les gens qui disent que l'enseignement, c'est des journées courtes et de longues vacances, viennent voir ce que c'est. On commence avant 7h du matin et on n'arrête pas jusqu'à 16h. On n'a presque pas de pause car il y a des choses à faire entre les cours. Alors que dans la banque d'investissement, on a des rendez-vous, mais on a le temps de se poser pour prendre un café. On voyage aussi beaucoup et ça permet d'avoir des temps de pause. Même si au final, en banque, on travaille plus en termes d'heures, les heures sont beaucoup plus intenses dans l'enseignement que dans la banque.
C'est un cri du cœur.
Oui, alors Peter est ravi de son expérience, hein, mais il était terrifié le jour de la rentrée et il admet qu'il a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre.
Alors pourtant Anaïs, jusqu'à présent, depuis 2 ans, ceux qui se sont découragés se comptent à peine sur les doigts d'une main.
Oui, effectivement, hein, et peut-être car ils se sont engagés en connaissance de cause. Katie, professeure et cofondatrice de NowTeach, m'explique qu'elle essaye à la fois d'encourager et de décourager les candidats qui la contactent. Certains peuvent avoir une image faussée de l'enseignement et s'imaginer en Robin Williams, comme dans le film Le Cercle des Poètes Disparus.
Ah oui,
sa mission, effectivement, est donc de préparer à une réalité qui s'avère toujours difficile au début.
C'est toujours un gros choc. Il y a énormément d'ajustements à faire. Ils doivent s'habituer à se retrouver en bas de l'échelle, alors qu'avant, ils étaient au sommet de leur profession. C'est à eux qu'on posait des questions. Et puis, brusquement, ils deviennent cette personne qui ne sait rien. Donc, ça leur fait bizarre. C'est très inconfortable.
Ne pas maîtriser son emploi du temps, c'est aussi dur hein, pour ces cadres de haut niveau qui étaient très indépendants avant. L'expérience nécessite donc une certaine dose d'humilité, mais aussi de patience. Et ça peut finir par mener à de belles histoires, comme celle de ce professeur.
Il n'avait pas le profil du candidat idéal. Il avait une carrière en entreprise très traditionnelle. Il avait porté le même costume, s'était rendu dans le même bureau pendant 30 ans. Il a vraiment galéré pendant sa première année, car eh bien non, à l'école, tout n'est pas toujours logique. Les élèves ne sont pas organisés. Et aujourd'hui, quand il en parle, il a les yeux qui brillent. Ça a surpris tout le monde, mais il a trouvé son truc.
Alors c'est super les profs qui se reconvertissent, mais dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent les élèves? Quel est le bénéfice pour eux d'avoir un prof qui vient de l'entreprise?
Alors le bénéfice est multiple. Hein. Grâce à leur expérience, ces profs peuvent mieux préparer les élèves au monde du travail. Grâce à leurs contacts, ils peuvent également leur ouvrir des portes. Et leur expertise apporte souvent un gros plus au monde de l'école. Écoutez ces anecdotes de Jim, principal d'un collège, et Katie.
Nous avons choisi le thème de l'impact du plastique sur la nature, un thème d'actualité. Et cette journée a été complètement organisée par notre professeur NowTeach qui travaillait dans le secteur de l'environnement. Elle a été capable d'apporter des choses qu'un professeur normal n'aurait pas été capable d'apporter. Et de nombreux élèves, après, ont dit que la journée avait été très intéressante et qu'ils avaient énormément appris sur le sujet, et certainement plus que lors des journées qu'on a fait par le passé sans experts.
On a placé un prof dans une petite école très ancienne qui a commencé à recevoir de plus en plus d'élèves. À un moment, il y a eu des embouteillages dans les couloirs. Ça devenait limite dangereux. Or, comme c'était un ancien scientifique de la NASA, il a mis en place un plan de circulation pour les élèves dans les couloirs. Il pouvait les emprunter certains jours, certains horaires. Et grâce à ça, il n'y a plus d'embouteillage.
Effectivement, il fallait un scientifique de la NASA pour réguler un peu les flux d'élèves. C'est une très très bonne initiative. Alors, en Angleterre, on sait que 40% des profs démissionnent 5 ans après avoir démarré dans l'enseignement. C'est beaucoup. NowTeach, c'est donc une super initiative, mais c'est pas évident quand même. C'est pas donné à tout le monde d'arrêter une carrière de haut vol, de cadre supérieur pour devenir prof?
Non, effectivement, à cause de la baisse de revenus, hein, la première année, un prof gagne moins de 27 000 euros par an en Angleterre. Oui. Pour Lucy Calloway, par exemple, ça a été une baisse de 90% de son salaire.
Wow.
Il est donc recommandé pour ces cadres aspirants professeurs d'avoir fini de payer prêt immobilier et éducation des enfants avant de se lancer.
Oui, effectivement, il faut avoir été prévoyant dans ses premières années de travail. Merci beaucoup Anaïs Cordoba, en ligne depuis Londres.
Merci.
À bientôt dans les carnets.
À bientôt. Europe 1.
Dernière destination de ces carnets du monde, le Brésil, où le carnaval de Rio 2019 se prépare déjà depuis quelques jours, dans une ambiance nouvelle depuis l'élection il y a une semaine du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro.
Europe 1,
Les carnets du monde.
Avec vous, Virginie Salmen. Jusqu'à 14h, on vadrouille avec les reporters et correspondants d'Europe 1, destination le Brésil.
Et une semaine après l'élection triomphale de Jair Bolsonaro à la tête du géant d'Amérique latine, le vent a tourné. L'ambiance est en train de changer au Brésil. Ce virage était en cours depuis plusieurs mois déjà, avant l'accession au pouvoir du candidat d'extrême droite. Et ce changement d'air politique, eh bien, il se sent déjà dans les préparatifs du carnaval de Rio, qui viennent tout juste de démarrer en vue du mois de mars. C'est là que nous emmène aujourd'hui Sandrine Prioul, l'envoyée spéciale d'Europe 1 au Brésil. Bonjour Sandrine.
Bonjour Virginie. Et je vous propose donc de plonger dans ce boucan irrésistible.
Ah oui, là, on y est complètement, mais on est où exactement, Sandrine ?
Eh bien, on est dans un hangar immense, l'école de samba de San Clemente, une des plus anciennes de Rio, 60 ans, que les percussions, les danseurs, les chanteurs commencent dès novembre. Les répétitions pour le carnaval, comme Thiago, envahi par la fièvre de la samba.
Agora samba.
C'est tellement cool. Une grande fierté de représenter São Clemente cette année. Et c'est beaucoup de pression. Là, ça commence à monter pour tout le monde. On s'entraîne dur. On s'entraîne dur pour que notre défilé soit le plus réussi et que le spectacle soit beau pour vous. Après, la samba, c'est très physique. Il faut être super endurant. Tu travailles, tu transpires, tu te fatigues. Les gens sont aussi là pour se défouler, se divertir. Mais c'est quand même un marathon de 3 heures de danse, sans s'arrêter.
Voilà, ils vont intensifier l'entraînement d'ici mars pour la compétition du carnaval entre les 14 écoles de samba. Et pourtant, Thiago, enfant de la danse et jeune homosexuel, a ce triste pressentiment que le carnaval 2019 sera différent.
Tout le monde sait que l'origine de la samba, c'est un héritage des anciens esclaves. C'est la musique de ceux qui n'étaient pas libres. Bon, moi, je ne suis pas noir, je vous le précise. Mais la samba, c'est toute une empathie envers ce peuple, envers les noirs. Et je crois que ça va être de plus en plus difficile. Parce que le clan Bolsonaro, il ne supporte pas ça. Alors oui, il y a bien une sorte de résistance qui s'organise. Ce n'est que le début depuis l'élection. On va voir quelles sont les intentions du président. Mais c'est vrai que c'est un peu triste. Parce que le carnaval, ce n'est pas uniquement un défilé. C'est l'investissement de millions de personnes, des familles tout au long de l'année. Et du coup, on en souffre. Parce qu'on sent bien maintenant que les élus veulent sa fin. La fin du carnaval.
La fin du carnaval de Rio, vraiment, on a du mal à imaginer ça, hein. La fin d'une institution qui a près de 90 ans.
Oui, évidemment, c'est pas totalement la fin du carnaval, mais en tout cas, il est mis à mal. Il y a comme une opposition qui s'est installée entre les pros et les anti-carnaval. Les anti, ce sont les églises évangéliques, dont le nouveau président du Brésil revendique la proximité, des courants qui refusent cet héritage de la samba, et ça agace beaucoup Patricia, inconditionnelle depuis 50 ans.
Brasil est un pays...
Le Brésil est un pays catholique. Et puis il y a les dissidents là, les évangéliques. Je ne les aime pas. Ils sont très à droite, ils ne se mélangent pas. Pour eux, le carnaval, c'est profane, c'est nuisible. Moi, je suis catholique. Je respecte tout ce que tu veux. Mais maintenant, va falloir qu'ils évoluent. Le carnaval, c'est notre culture. Une de nos cultures. Qu'ils se le rendent dans la tête. Ça n'a rien à voir avec la religion. Eux, ils n'aiment pas et ils veulent interdire parce que ça les renvoie au péché. Mais non, c'est une fête, c'est une commémoration, une confraternisation universelle.
Donc le carnaval serait une fête trop subversive, c'est ça ?
Oui, petite précision d'étymologie, le mot samba signifierait excité en bundu, langue d'où étaient originaires les esclaves. Mmh. Et les mouvements évangéliques lui reprochent trop de corps dénudés en sueur qui défilent dans les rues. Du coup, à mesure que ce courant fait des adeptes dans les favelas, il y a de moins en moins de gamins qui descendent à l'école de samba, de moins en moins de bénévoles qui avant perpétuaient ce rituel culturel. Le maire de la ville qui était aussi évangélique a justement été critiqué parce qu'il a divisé par deux les subventions et au sacrilège, l'année dernière, il a séché cette grand-messe de la samba. Mais son conseiller municipal, le pasteur Hinaldo Silva, refuse ce procès en pudibonderie.
Quelle stigmatisation parce qu'il est religieux. Comme si on allait en finir avec le carnaval. C'est la crise pour tout le monde. Et c'est pas juste qu'une gouvernance qui doit compter son budget au réel près doivent financer ce qui n'est qu'une fête commerciale. Ou que le maire doive aller rendre visite aux écoles de samba. Il met déjà à disposition les éboueurs municipaux pour le carnaval. C'est bien assez.
Oui, on ramasse les déchets, ça suffit. Alors le carnaval l'année dernière aurait généré près de 900 000 millions d'euros de recettes. Ces élus n'ont pas vraiment intérêt à émettre un frein, si ?
Non, c'est évidemment devenu une industrie très florissante, le carnaval, avec de généreux sponsors qui transmettent ces images de rêve dans le monde entier. La vitrine est sauve. Ce qui pourrait en pâtir, c'est l'identité du carnaval. Le patron d'une petite école me disait que c'est devenu très compliqué. Puis il y a tout le off, toutes les représentations à côté des défilés prestigieux qui coûtent jusqu'à 1500 euros la place. Eh bien, le off, qui s'appelle le carnaval des pauvres, lui, a été déjà annulé l'année dernière.
Alors, les premiers concernés, qu'est-ce qu'ils disent ?
Eh bien, ils essayent de protester contre ce virage économique. L'école Saint-Clément a décidé cette année de choisir comme hymne cette chanson qui dit « Attention, faudrait pas que la samba sambo », traduction, « faudrait pas que la samba vende son âme ».
On avait envie de faire cette critique sur le carnaval qui a toujours été une fête populaire. C'était avant que le carnaval n'évolue et ne s'égare avec tous ses sponsors. Donc voilà, c'est une critique car la samba c'est de l'art et l'art c'est un mode de lutte.
Et alors elle dit quoi Sandrine, cette chanson ?
Eh bien les paroles sont explicites Virginie. Voyez ce que l'argent a fait de mon peuple. La samba est dirigée avec une saveur commerciale. Voilà les paroles. Les leaders puissants créent tellement de confusion. Il y a aussi autre, c'est très très explicite, une autre chanson à tonalité politique. Dans la tradition, hein. Chaque école se choisit un hymne pour le carnaval. Et comme les votes ont eu lieu entre les deux tours de la présidentielle, eh bien dans les quartiers populaires de Manguera, voilà la chanson qui a été élue.
Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra.
Cette chanson-là aussi, Sandrine, vous nous la décryptez?
Effectivement, à Manguera, c'est de là que venait Marielle Franco, conseillère municipale noire, militante féministe qui a été abattue en avril dernier. Cette chanson dénonce justement l'assassinat en disant « Il y a des vérités que l'histoire a cachées dans la farce découverte le 22 avril. La liberté dans la peau fait mal », parallèle aussi avec l'esclavage et chanson pour laquelle le jeune Juan, originaire des favelas, voulait voter.
Je suis heureux d'avoir voté pour cette chanson. Elle resitue les origines du Brésil et elle rend hommage à Marielle Franco. Parce que le président qui vient d'être élu, il ne me représente pas.
La militance, finalement, via les chansons du carnaval. Et celle-ci, Virginie, elle résonne en fait comme un pied de nez au nouveau président. Son titre, c'est « L'histoire fera grandir nos enfants ». Et parmi les diverses sorties de Jair Bolsonaro ces dernières semaines, il y avait notamment celle-ci qui niait l'esclavage. Le Brésil, avait-il dit, n'a pas de dette envers les afrodescendants.
Ça aussi, c'est clair. Hein. Merci pour cette plongée dans les préparatifs du carnaval de Rio. Alair Bolsonaro, Sandrine Prioul, envoyée spéciale d'Europe 1 au Brésil. Merci Sandrine.
Merci Virginie.
Et à très bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Europe 1.
Dans quelques secondes, Joseph Chovanec nous fait découvrir des monuments que seul lui pense à visiter en voyage. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec Virginie Salmen. Et comme chaque dimanche, on part en Autistan avec Joseph Chovanec.
Il est philosophe, grand voyageur. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le seul chroniqueur radio porteur d'autisme Asperger. C'est son rendez-vous, vous l'aurez peut-être reconnu. Joseph Chovanec nous a rejoint. Bonjour Joseph.
Bonjour Virginie et bonjour à tout le monde.
Alors aujourd'hui, vous nous emmenez dans des lieux que les touristes ne visitent généralement pas, sauf vous. Vous êtes un voyageur particulièrement curieux et donc vous n'hésitez pas à pousser la porte des hôpitaux psychiatriques qui se révèlent en fait être des bâtiments chargés d'histoire.
Oui, chargé de l'histoire du monde. Il y a 3 ans, dans les carnets, nous avons parlé d'un bâtiment en ruine que j'avais découvert par hasard dans la forêt tropicale au large de Cayenne. au sein du bagne, il y avait un asile d'aliénés. On peut encore lire ses lettres à l'encre rouge sur l'une des pierres.
Ah oui.
Le bagne de Cayenne était avant tout non pas une prison pour les grands délinquants, mais un asile psychiatrique pour les gens dont on ne voulait pas en France métropolitaine.
Ah oui, alors ça, effectivement, c'est un fait pas très connu.
Très peu connu. Hein. Et l'autre jour, j'ai découvert un lieu au moins aussi saisissant. C'est en plein milieu de la vieille ville de Fès, au Maroc.
Donc là, entre vous êtes les... aujourd'hui, vous vous trouvez au Maroc.
Exactement, tout à fait. Entre les mille et une ruelles de la vieille ville de Fès, un lieu très peu connu des visiteurs, eh bien, c'est le Maristan Sidi Fridj. Je veux dire l'hôpital, plus précisément l'asile psychiatrique historique. Mmh. Ce nom n'évoque peut-être plus grand-chose de nos jours, mais il s'agissait sans doute du premier asile psychiatrique du monde occidental, construit au XIIIe siècle. Et ensuite, il a servi de modèle à celui de Valence en Espagne, puis tant d'autres en Europe. Et à titre personnel, je ne résiste pas à l'envie de noter que Maristan provient du persan Bimaristan, hôpital. Ce sont des concepts qui nous viennent littéralement de l'autre côté des mers.
Il n'y a que vous pour souligner ça, Maristan. Et donc, vous avez été frappé, Joseph, par en particulier l'architecture des lieux.
Mais oui, c'est une architecture que l'on retrouve quasiment à l'identique dans les asiles puis dans les prisons classiques en Europe. Un bâtiment rectangulaire, un seul étage, et à cet étage, des cellules sont agencées autour d'une cour intérieure, sorte de long couloir interne. Il semblerait qu'il n'y ait jamais eu beaucoup de personnes enfermées en même temps dans l'asile psychiatrique de Fès, tout au plus une quarantaine. On est loin de la surpopulation carcérale de notre
C'est un tout petit hôpital. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui, ces hôpitaux psychiatriques un peu avant-gardistes, enfin en tout cas ces tout premiers hôpitaux psychiatriques du monde ?
Ben, malheureusement, Virginie, que ce soit l'asile de Cayenne ou celui de Fès, tout ça, ça sombre dans l'oubli. Hein. Le premier est littéralement avalé par la jungle. Le deuxième sert de galerie commerciale sans intérêt. Hein. Ce qui m'avait redonné espoir, c'était ma visite au mois d'août dernier du léprosarium de Bergen en Norvège.
Alors, dites-nous juste en un mot ce que c'est un léprosarium ?
C'était un hôpital pour les personnes malades de la lèpre, mais plus généralement, on y mettait toutes les personnes qu'on ne voulait pas voir. Mais les similitudes avec l'hôpital de Fès au Maroc sont frappantes. Même architecture, une date de fermeture à peu près identique, c'est-à-dire au milieu du XXe siècle, et une position à la lisière de la ville de l'époque.
Ah oui, un mais peu à l'extérieur, presque à l'extérieur.
Voilà. Mais une différence majeure m'a frappé. L'hôpital de Bergen en Norvège a été transformé en musée. Un musée non pas de la médecine ou de je ne sais quel médecin en chef qui pavanerait, mais des personnes qui y ont vécu. Dans chaque cellule, on trouve le nom de la personne, son portrait, sa biographie. On peut lire l'histoire de la Norvège sur les murs du vieux léprosarium de Bergen.
D'accord. Quand vous dites portrait, ça veut dire c'est des photos, c'est des dessins des...
Plutôt des dessins, hein, c'est ancien déjà.
D'accord, des dessins, donc des portraits du visage de chaque patient.
Tout à fait.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous inspire ces asiles par rapport aux hôpitaux psychiatriques ou bien aux instituts d'aujourd'hui ?
Mais je crois que Virginie, il y a une différence fondamentale avec ce qu'on trouve aujourd'hui, par exemple en France. Que ce soit l'hôpital psychiatrique de Fès ou à Bergen jadis, l'asile n'était pas un lieu fermé. Les personnes pouvaient entrer et sortir à leur guise. Aujourd'hui, une telle liberté est hors de question pour des centaines de milliers de personnes handicapées en France. La construction d'une société inclusive reste encore une tâche devant nous.
D'accord, donc vous parlez des personnes handicapées dans les instituts qui ne peuvent pas, qui ne sont pas libres de leur mouvement. Voilà la conclusion que vous en tirez. Merci beaucoup, Joseph Chovanec.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À dimanche prochain.
Europe 1.
Merci d'avoir tourné avec nous les pages de ces carnets du monde. Un petit cadeau de fin, vous pouvez réécouter toutes les émissions, tous les reportages en podcast. C'est gratuit sur l'application d'Europe 1 ou sur votre smartphone. Aux manettes ce soir à la réalisation Nicolas Six et Mathieu Blaise. Un grand merci aussi à Florence Gimalac qui m'a aidé à préparer ces carnets du monde. La semaine prochaine, c'est le retour de Sophie Larmoyer. D'ici là, bon dimanche.
Merci Virginie Salmen. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat cet après-midi. Il évoquera un petit bout du parcours de vie exceptionnel
remarquable du boxeur Jean-Marc Mormec, de son déracinement lorsqu'il quitte la Guadeloupe enfant pour rejoindre la métropole jusqu'à son premier titre de champion du monde. C'est On de la Traconte de 14h à 15h sur Europe 1.